RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur la grave question de la dignité, du caractère unique de chaque personne et en même temps d'une certaine diversité. Et Michel, tu terminais en nous disant, mais s'agit-il de complémentarité ou s'agit-il d'opposition ? Alors, sans doute faut-il revenir sur cette question importante.
Alors effectivement, Yann, nous avons vu le caractère essentiel et unique de la personne humaine, mais en parallèle, les grandes différences que nous avons chacun d'entre nous. Personne ne peut contester cette diversité des intelligences, des moyens physiques, dans l'espérance de la vie, etc. Et tout ça remet en cause le sacro principe de l'égalité. Et comment l'Église défend sa position face à ça ?
Alors écoute, avant de partir sur la position de l'Église, bon, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité en essayant de regarder l'expérience des hommes. Il y a une petite histoire, je ne sais pas.
Donc,
si...
Donc, avant l'Église, c'était le bon sens.
Oui, je
pense. La loi naturelle.
C'est ce qu'on appelle... La loi naturelle, une bonne illustration, c'est celle qui nous est donnée par la fable d'Ésope, qui s'appelle « Les membres et l'estomac ».
Alors, juste, Yann, Ésope, à peu près quelle période ?
Ça date pas d'hier, hein, ça doit être 3-4 siècles avant Jésus-Christ.
D'accord, hein. Non, c'est pour situer un petit peu pour nos auditeurs qu'on s'y retrouve. Voilà.
Je connais
donc
la
loi. On est bien avant Jésus-Christ.
Ah, oh là là, oui, voilà. Oui, bien évidemment.
Hein. Allons-y.
Et dans l'histoire que nous... Ésope était un esclave. Et Ésope raconte l'histoire des membres d'un corps humain qui se révoltent contre l'estomac. Pourquoi ? Parce que c'est un gros fainéant. Et il refuse de le nourrir. Il s'ensuit une faiblesse de tout l'organisme, de tous les membres. C'est un apologue qui illustre la différence des fonctions dans un corps social. C'est la condition de survie et de développement de chacun des membres. Et à Rome, cette histoire a été utilisée. À Rome, lorsque la population s'est révoltée contre les patriciens, les plébéiens se sont révoltés contre les patriciens, contre la noblesse, le tribun Ménénus Agrippa leur a rappelé l'histoire des membres et de l'estomac pour leur montrer qu'il fallait travailler pour l'unité de la cité. Et ça veut dire quoi cet apologue ? Ça veut dire simplement que effectivement nous sommes tous différents, que nous avons des fonctions différentes dans la société et que cette complémentarité existe. Alors rejoignons maintenant, puisque ta question était l'Église, Saint Paul. Reprend dans une épître aux Corinthiens, je ne sais plus laquelle, la fable des membres de l'estomac, lorsqu'il dit « le corps n'est pas un seul membre, l'œil ne peut dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », que tous les membres conspirent également au bien les uns des autres ». C'est Saint Paul. Et notre Seigneur il se réfère implicitement à la même réalité. Quand il parle du maître qui répartit les talents inégalement. Et c'est là qu'on voit que on fait ressortir cette identité de nature, cette égalité de nature en tant que créature. Ceci étant le traitement individuel de chaque personne. Cette réflexion, nous aurons l'occasion d'y revenir dessus, mais cette distribution des talents, des biens, etc. Nous sommes tous différents les uns des autres, on n'y peut rien.
On y reviendra effectivement. Si je comprends bien, deux choses. D'abord, l'Église ne fait que reprendre dans ce domaine-là ce que j'appelais donc le bon sens.
Je crois, oui.
Ou la loi naturelle. Voilà, c'est quelque chose qui est évident à tout le monde. Donc l'Église n'a pas innové là-dedans. Et il y a donc effectivement une éloge de la différence comme étant la complémentarité et l'unité qui peut exister au sein d'un groupe.
Exactement.
On peut prendre des exemples dans le domaine du sport, je sais pas.
Si tu en le domaine du sport, là tu es provocateur.
Je te charrie.
Oui, surtout à bon égard. Oui.
Non, mais je peux prendre. Hein. C'est pas parce qu'une équipe de sport, de foot ou de rugby, a les plus grandes individualités au monde que pour autant que c'est elle qui va gagner le titre ou le championnat. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. On peut prendre des exemples dans la famille. Dans le domaine associatif.
L'entreprise. C'est remarquable. Pour arriver à servir un client, quand on voit la variété, la multiplicité des talents qu'il faut, entre ceux, les talents des commerciaux, des chercheurs, des producteurs, c'est prodigieux. Et chacun amène ses talents. Et tout l'art d'une direction, justement, va être d'orchestrer ces différents talents afin de réaliser cet objectif qui est de servir le client correctement. L'entreprise est un lieu de leçons de choses et de modestie, d'humilité. Et une personne qui nierait ces différences, ces complémentarités, je pense qu'elle est tout simplement bonne à mettre à l'hôpital psychiatrique.
Alors, je ne savais pas qu'on mettait des entreprises dans les hôpitaux psychiatriques. Nous allons prendre une courte pause pour réfléchir à cette question et puis nous nous retrouvons dans quelques instants pour poursuivre cette discussion très intéressante mais qui prend un tour original. Alors, Michel, Yann, complémentarité, opposition, où en sommes-nous vraiment ?
Alors, Yann, nous avons vu que nous étions tous uniques. Tous égaux, mais différents, puisque nous sommes uniques, ce qui a comme incidence de nous donner des droits et des devoirs. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un nouvel exemple ? Est-ce que nous pourrions prendre un nouvel exemple, j'irais, pour tirer toute l'intelligence de cette contradiction éventuelle, dans l'enseignement, par exemple ?
Je crois que contradiction, oui, effectivement, c'est une contradiction apparente. Je prends l'exemple d'une classe. Un professeur, je ne parle pas forcément d'un professeur catholique, raison de plus s'il est catholique. Mais j'ai le souvenir d'une conversation avec une dominicaine enseignante qui m'expliquait que dans une classe, dans sa classe, elle parlait d'une classe concrète, ce n'était pas de l'abstraction, et en plus il y avait des enfants. Les talents étaient différents. Il y avait des enfants qui avaient une intelligence très ouverte, très conceptuel, d'autres une intelligence très pratique, d'autres qui avaient beaucoup de mal. Et elle m'expliquait que tout son rôle était d'exploiter tout ce qu'il y avait de bon chez chacun des enfants et de faire en sorte que ces talents exploités au profit les uns des autres permettent d'élever l'ensemble de la classe. En d'autres termes, on voit très bien, là, j'allais dire le rôle du politique, si je peux me permettre de parler de politique pour une religieuse. Ah, mais en tant qu'elle fait fonctionner un corps social, qui est une classe, il y a un rôle politique. Cette personne-là avait le souci de faire monter le niveau de tous les élèves en exploitant les talents de chacun, en essayant de neutraliser, bien sûr, parce qu'il y a cet aspect-là, les défauts, les carences, de les masquer, les neutraliser, les écarter. Et c'était tout le travail au service de l'ensemble de la classe.
C'est-à-dire que le plus faible, sur le plan intellectuel, donc à sa place,
oui,
complètement, est-ce qu'on peut extrapoler dans le domaine de la société aussi.
Alors, j'ai juste une petite remarque, Yann. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt développer les talents que exploiter ? C'est simplement parce que là, tu reconnais bien mon esprit un petit peu tordu. Donc, je comprends ton exemple, mais je développerai donc les talents.
Oui, mais...
je m'excuse, Michel. Revenons à ta question qui me paraissait pertinente.
Exploiter au sens de mettre en valeur.
Mais... J'avais compris, mais je préfère qu'on précise.
Tu viens de me reprendre.
Dans le développement de l'intelligence même de celui qui a le moins de capacité intellectuelle, est-ce qu'on peut prendre un autre exemple dans le domaine de la société ?
Oui, et puis je veux dire, plus que développer l'intelligence, développer les talents, les qualités de cœur. Et là, dans le cadre de la société, je repense à notre actualité, la prise en charge du handicap. Le handicap, ben effectivement, ce sont des carences que subit un individu. Et ces carences, par l'aide que le reste de la société va apporter à cet individu, c'est un moyen d'assurer une cohésion sociale, une cohésion du groupe humain. Il est évident qu'aujourd'hui, cette attitude que l'on a à l'égard du handicap, et je crois que l'actualité la plus récente est assez révélatrice, traduit un égoïsme et un repli sur soi significatif, alors que le fait de venir en aide, de venir
de se mettre au service,
d'apporter ce que nous avons, nous, à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est l'exemple même de toute vie sociale.
Donc là, je sens qu'on vibre. C'est la juste conséquence donc des inégalités qui peuvent exister. Mais on en parlera la prochaine fois, parce que je pense saisir maintenant la nécessité d'une organisation. Tu parlais du rôle du politique, donc d'une organisation qui permettra à chacun de trouver les conditions de son plein épanouissement.